Chapitre 5. Une nouvelle donne géopolitique, bipolarisation et émergence du tiers-monde, 1953-1975. Cours 1. La guerre froide, 1953-1975. Comment le conflit Est-Ouest imprime-t-il sa marque sur l'ensemble des relations internationales? A. Un monde bipolaire. 1. Deux modèles idéologiques opposés. L'URSS et les États-Unis proposent chacun, au milieu des années 1950, un projet de société visant à façonner le monde suivant leurs valeurs et à rejeter les menaces incarnées par leur adversaire. Les États-Unis se font les champions de la démocratie, des libertés et de l'économie de marché. Ils dénoncent le système répressif établi en URSS sous Staline, ainsi que l'absence de presse et d'élections libres dans le bloc de l'Est. Ils font de l'expansionnisme soviétique le principal danger pour la paix. L'URSS leur oppose un autre modèle, le communisme, valorisant l'égalité et l'abolition des classes sociales, ainsi que des inégalités raciales, tout en dénonçant à l'échelle mondiale l'impérialisme américain et le colonialisme européen. En 1953, la mort de Staline ouvre une crise de succession qui se termine au profit de Nikita Khrouchtchev, seul au pouvoir en 1956. 2. Deux blocs géopolitiques consolidés. Le monde est marqué par la bipolarisation. Chacune des deux superpuissances est soutenue par des alliés au sein de blocs progressivement constitués et renforcés par des alliances militaires, dont les principales sont l'OTAN, 1949, du côté occidental, et le Pacte de Varsovie, 1955, du côté soviétique. La cohésion de ces blocs est une préoccupation constante des deux grands. À l'Est, l'URSS entend empêcher toute révolte et écrase les soulèvements survenus en 1956 en Hongrie et en 1968 en Tchécoslovaquie lors du printemps de Prague. À l'ouest, les débuts de la construction européenne, traité de Rome, 1957, consolident l'Europe occidentale. B. Un affrontement planétaire. 1. De multiples foyers de tension. En dépit de la mort de Staline, qui permet de négocier une fin à la guerre de Corée, 1953, de nombreux foyers de tension opposent les deux blocs. En Asie, les États-Unis sont décidés à endiguer l'avancée du communisme en soutenant la France dans la guerre d'Indochine, 1946-1954, puis en intervenant directement dans la guerre du Vietnam, 1964-1975. En 1959 à Cuba, une révolution place au pouvoir Fidel Castro, qui s'allie avec l'URSS. Une crise majeure survient quand un avion espion américain de type U-2 est abattu au-dessus de l'URSS en 1960. Le point critique reste Berlin-Ouest, fragile île occidentale, en plein bloc soviétique. Pour empêcher ses habitants de fuir, l'Allemagne de l'Est construit en août 1961 un mur qui symbolise la division de l'Europe. 2. L'escalade nucléaire et la crise de Cuba. La perspective d'une guerre entre les États-Unis et l'URSS pousse chaque pays à se doter d'armes de plus en plus destructrices. Bombe atomique que l'URSS obtient en 1949, puis bombe H thermonucléaire, 1000 fois plus puissante, dont les deux disposent en 1953. Pour soutenir l'idée de dissuasion nucléaire, un arsenal gigantesque de sous-marins, d'avions bombardiers et de missiles balistiques est construit, accroissant la méfiance réciproque et provoquant de nombreux accidents. L'infériorité numérique de l'URSS en matière de missiles pousse le dirigeant soviétique Khrouchtchev à installer secrètement des armes nucléaires à Cuba en 1962. Leur découverte provoque la plus grave crise de la guerre froide. Si le président américain John F. Kennedy avait suivi les conseils de ses chefs militaires qui lui recommandaient l'invasion de l'île, une guerre nucléaire était presque inévitable. Le difficile compromis qui résout la crise fait prendre conscience des risques et ouvre la voie à la détente. C. Un apaisement partiel des relations internationales. 1. La détente en Europe. Marquée par la crise de Cuba, États-Unis et URSS se décident à dialoguer en 1963. Un contact direct, surnommé « téléphone rouge », est établi entre leurs dirigeants, qui signent cette même année un traité partiel d'interdiction des tests nucléaires. C'est le premier pas vers la limitation des armements qui intervient avec le traité SALT I, Strategic Arms Limitation Talks, signé en 1972. Le risque de guerre nucléaire semble s'éloigner. Ce climat de détente permet de régler en partie la question allemande au cœur de la guerre froide depuis ses débuts. Le chancelier ouest-allemand, Willy Brandt, mène une politique de reconnaissance de l'Allemagne de l'Est nommée « Ostpolitik », qui aboutit à un traité entre les deux pays en 1972. 3 ans plus tard, à la conférence d'Helsinki, l'URSS et les pays du bloc soviétique signent avec les pays de l'Ouest des accords garantissant les frontières, mais aussi les droits de l'homme en Europe. Le continent n'a jamais semblé si stable depuis 1945. 2. Le maintien de conflits périphériques. La détente ne signifie pas la fin de la guerre froide, qui continue sous d'autres formes, dans le tiers-monde en particulier. Enlisés au Vietnam, les États-Unis sont soucieux d'éviter toute contagion communiste, surtout dans leur sphère d'influence en Amérique latine, où le régime de Fidel Castro alimente des guérillas révolutionnaires. Ils soutiennent donc les régimes dictatoriaux qui répriment avec brutalité les revendications populaires au Brésil ou au Nicaragua. C'est avec l'appui américain que le gouvernement démocratiquement élu de Salvador Allende est renversé par le général Pinochet en 1973 au Chili. De même, en Afrique, des mouvements d'inspiration communiste, soutenus par la Chine de Mao Tse-tung ou par Cuba, font face aux dernières puissances coloniales et à des dictatures soutenues par les pays occidentaux comme le Congo du président Mobutu. Enfin, le Moyen-Orient est marqué par des conflits qui ne relèvent pas de la seule logique de guerre froide.